Bonjour, vous êtes sur 88.4 sur Radio Galère pour l'émission Confie-toi. Vous êtes avec Waka et Polo. Polo, tu veux dire un mot?
Et ben du coup bonjour, moi c'est Polo et comme c'est toutes ces dernières semaines, Erika m'invite à faire une chronique sur son émission Confie-toi et vous êtes bien sur Radio Galère 88.4.
Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour ce sixième numéro et l'avant-dernier numéro, on espère, ou peut-être pas, on verra si le confinement continue dans cet état ou pas. On n'en sait pas en fait plus que vous, vu que le 11 est censé être le déconfinement, mais en même temps, selon certains chiffres, il n'y a toujours pas d'antivirus, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc c'est une situation super anxiogène. Peut-être avant de passer à ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler pas énormément de choses parce que je suis un peu malade. Donc Polo va faire sa chronique, il va avoir encore une lecture, le troisième épisode, comme la semaine dernière, comme la semaine avant. Donc c'est une lecture dans Collectif Lyonnais. Et on est encore heureux et heureuse de les accueillir aujourd'hui dans cette émission. Il n'y aura pas le compte de Polo. Parce qu'en fait, son ordinateur a craqué cette semaine avec tous ses écrits. Voilà, c'est le confinement, c'est des hauts et des bas. Et moi-même, aujourd'hui, je suis malade. Mais quand même, j'ai décidé de faire cette émission parce que, voilà, j'ai aussi la chance de pouvoir faire une émission. C'est un peu ça mon travail aussi. Je fais partie des personnes assez privilégiées. Question travail. Donc, on va peut-être revenir à toi, Polo, et ensuite, on passera à la suite.
Alors avant de commencer ma chronique, j'aimerais faire un point sur la compile Pandemos. On vous en avait déjà parlé la semaine dernière. C'est une compile qui est à prix libre avec plus de 35 artistes, meufs, gouines, trans, qui sont vraiment géniales. Et tous les fonds partiront à la cagnotte du Stras, qui est à destination de toutes les personnes TDS de France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en ce moment, les organisatrices de la compile se font cyberharceler. Donc, on voulait vous faire un point là-dessus, acheter la compile pour soutenir les personnes TDS, mais aussi surtout pour soutenir les personnes qui sont à l'origine, parce que c'est à la fois un super beau projet, c'est vraiment génial d'avoir fait ça, c'est des super artistes qui sont présentes, et du coup ça vaut le coup de les soutenir, et surtout dans cette période où elles se font cyberharceler, j'imagine, pour leur prise de position. Voilà. Donc, si vous pouvez acheter cette compile, si vous pouvez partager, en parler autour de vous, n'hésitez pas.
Oui, exactement, Polo. Juste pour dire que effectivement, c'est assez grave ce qui se passe par rapport au harcèlement que subissent les personnes qui ont juste décidé en fait de soutenir des personnes qui étaient dans le besoin, des personnes victimes d'un système qui les oppresse. Je trouve ça scandaleux de cyberharceler des personnes qui ont juste demandé à vivre en fait. Et à aider les autres. De toute façon, tout harcèlement est scandaleux de toute manière, mais vraiment, on voit vraiment que certaines idéologies sont quand même super actives. C'est pas juste de dire, ah oui, en fait, on n'est pas d'accord avec vos choix, entre parenthèses, moraux. Non, c'est vraiment, on n'est pas d'accord et on vous le fait sentir, on vous harcèle, on vous humilie, on vous traite mal parce qu'on vous donne pas accès à la base qui est de pouvoir être, tout simplement. Donc, on va passer à Arthura. Arthura, qui nous a envoyé un son à elle qui s'appelle Shit Mix Out 1. Et comme vous le savez, on a proposé à plusieurs personnes via les réseaux sociaux de nous envoyer leurs œuvres ou ce qu'ils font en ce moment, pendant le confinement, ou ce qu'ils faisaient même avant. Peut-être ce qu'ils feront aussi après, si vous avez envie. On vous a laissé l'adresse mail via les réseaux sociaux, on le redit souvent dans les émissions, donc c'est rappel rap3les@gmail.com. Si vous avez envie de nous envoyer des choses pour qu'on le diffuse à la radio, vous pouvez le faire. Du coup, Arthura est une poète à la base et elle compose, et du coup, elle nous a envoyé ce poème avec cette chanson qui est dessus, qui a été faite par Sid. Du coup, Sid, c'est celui qui est à la musique. Sid, ou peut-être elle, je ne sais pas, c'est pas précisé. IL. Du coup, elle dit que cette chanson est plutôt décalée. C'est pour un confinement décalé, selon elle. Donc, on va écouter ça et on revient tout à l'heure pour vous parler de choses et d'autres. À tout à l'heure.
fort. Elle prend l'exit ou le remords. La unique de Maldoror, il file à son truc parce que c'est plus fort. Par-dessus bord, on est dans le vent, c'est mon enfant, elle est à moi, je suis plus fort. Allez, moi, je vais jouer au bord.
Retour sur 88.4, vous êtes avec Waka et Polo, on est à Marseille, on est sur Radio Galère. Je voulais revenir aujourd'hui, c'était très difficile pour moi de faire cette émission parce qu'en fait je suis un peu malade, même depuis 2 jours je suis carrément malade. J'ai un problème de carence souvent en vitamine D parce que je suis noire, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais aussi j'ai un problème d'anémie parfois, et du coup bon bref, c'était le combo. Je suis totalement à plat cette semaine, mais quand même j'essaie de me motiver à faire cette émission, à être avec vous aujourd'hui, voilà. Et du coup bah durant le confinement je pense que ça pourrait être chouette de parler justement du fait que on peut souffrir de carences physiques, mais aussi de dépression, de fatigue émotionnelle. Et le fait de manquer de vitamine D, en fait, on se rend pas compte, mais ça peut jouer énormément, en fait, sur notre morale, sur notre santé, parce que c'est, on appelle souvent ça la vitamine du soleil, parce que notre corps la synthétise. Mais on la retrouve aussi dans des aliments, et c'est pas forcément qu'une vitamine, c'est aussi une sorte d'hormone qui rentre en contact avec d'autres hormones. Bon, je me suis un peu renseignée sur le sujet, c'est pour ça que j'ai l'air un peu calée comme ça. Du coup, la vitamine D est vraiment très importante et bah, n'hésitez pas à en prendre parce que moi, je suis complètement KO à cause de ça. Bon, j'ai pas envie d'être alarmiste ou quoi, ce n'est pas le but, mais juste vous parler de ma situation personnelle. Du coup, le risque de vitamine D fait que vous pouvez souffrir de dépression, vous pouvez aussi prendre du poids. Donc, en plus, si vous êtes en situation d'obésité, bah, en fait, vous assimilez moins bien la vitamine D. Et il y a aussi un fort cru, du moins, ça augmente le risque de cancer du sein, du côlon, des fibromes aussi utérins. Voilà, Donc, et sans parler de problèmes d'os, du coup, et des problèmes musculaires. Bon, bref, il y a pas mal de problèmes qui sont liés à ça. Et c'est juste que je me suis rendu compte que là, voilà, cette semaine, j'étais totalement à plat et sans parler des douleurs, tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire, faites gaffe, prenez un peu de soleil, 15 minutes par jour, ça suffit quand vous avez une peau blanche. Parce que quand vous avez une peau un peu plus foncée, bah c'est... Donc nous en tout cas en tant que personnes racisées, on assimile moins bien parce que effectivement à la base on vient du sud et il y a plus de soleil, donc logiquement. Voilà. Avant de passer à l'autre sujet, j'aimerais bien mettre une artiste que j'aime bien qui s'appelle Blanche Bailey, qui est justement une Camerounaise et j'aime bien cette chanson qui s'appelle Mes Respects. Ça parle de voilà, quand tu te fais tromper, bien, quand tu crois que la personne est à faux, mais en fait, elle n'est pas. Et puis voilà, et puis tu apprends qu'il y a un deuxième bureau. Deuxième bureau, ça veut dire que ce n'est pas le premier, ou que toi-même, tu pensais que tu étais le premier bureau. En fait, tu es le deuxième, le troisième, le quatrième bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas? Je vous expliquerai. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. En bref, tu es la deuxième ou la troisième femme, quoi. Tu n'es pas le premier bureau. Voilà. Donc, elle parle de ça, tout ça. C'est une chanson que je trouve très belle. En plus, avec des petits rythmes de rumba. Oui, j'ai dit que j'étais malade, mais j'ai l'air en forme comme ça. Mais en fait, non, je suis quand même malade. Hein. Donc, j'ai écouté ça pour me remonter un peu, pour me mettre un peu bien. Et aussi, j'ai pris de la vitamine D que vous pouvez trouver en pharmacie. Voilà. On écoute ça, Blanche Bailey. Et j'arrête de raconter ma vie. Et on revient tout de suite, après.
Scoop ce matin, la relation amoureuse de l'artiste internationale Blanche Bailey, surnommée la Queen Nimba, prend fin. Alors beaucoup de questions se posent sur le pourquoi et comment, et nous avons tous les détails ce matin. Chers auditeurs, prenez place car la nourriture est très chaude.
Who else? Blanche, on est où?
Je savais pas, je savais pas, je savais pas.
Hello, on revient sur 88.4 sur Radio Galère, vous êtes avec Waka et Polo. Et c'était Blanche Bailey, une compère camerounaise. Ouais, la go, elle est trop fraîche. Donc on va passer au deuxième sujet, qui est un peu sur l'empathie. Je vais vous mettre un documentaire, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un documentaire, mais c'est du youtubeur Dirty Biology qui fait de la vulgarisation scientifique sur sa chaîne YouTube, et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il avait fait vis-à-vis de l'empathie, et c'est aussi pour un peu illustrer ce que je vais dire en fait tout à l'heure. Et du coup je vais vous diffuser cet extrait de son épisode sur YouTube, et ensuite je vais parler du sujet dont j'ai envie de parler, qui est le traitement médiatique fait par rapport aux personnes qui sont mortes du Covid et qui sont mortes depuis le début de l'épidémie. Après, son documentaire, c'est « Compatir avec un taliban ». Bon, je suis pas... Bon, le titre, voilà. Mais je trouve quand même que ce qu'il dit en substance est intéressant. Les articles qui met en valeur, c'est quoi il s'appuie, c'est intéressant. On écoute ça et on revient tout à l'heure.
Et c'est en effet un moment d'humilité important de se rendre compte que notre cerveau n'est pas nécessairement une machine parfaite, mais que de nombreux biais cognitifs y existent et manipulent nos décisions. Ce n'est pas ici un jugement, mais plutôt un constat. Il existe un conflit entre notre système éthique, qui déclare que toute vie se vaut, et ce qu'en disent nos intuitions. Ce n'est pas amoral d'avoir ces biais, ils sont de toute façon automatiques et il n'y a pas grand-chose à y faire, mais si l'on cherche à avoir un impact positif sur le monde, alors il est important d'être conscient qu'ils existent. Dans une étude devenue classique, le psychologue Dan Bateson raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans, Sherry Summers, qui va mourir. Il existe un traitement pour la sauver, mais il y en a peu, et la jeune fille est tout en bas de la liste d'attente. Vous pouvez décider de déplacer son nom en haut de la liste, mais ce faisant, vous allez priver d'autres enfants qui attendent depuis plus longtemps, qui ont une espérance de vie plus courte ou qui souffrent plus. Que faites-vous ? Bateson raconte cette histoire à deux groupes de volontaires, de deux façons différentes. En étant très factuel ou en prenant la perspective de la petite fille, en racontant sa douleur quotidienne, insoutenable, et ses espoirs futurs. Elle voulait devenir astrophysicienne, découvrir de nouvelles étoiles, et tout ça repose sur un simple traitement qui est entre vos mains. La conclusion de l'expérience est sans surprise. Si on leur raconte les faits de façon objective, les participants sont plus justes que s'ils empathisent avec le sort de Sherry Summers. Ce réflexe est de fait sensible à toutes sortes de manipulations et est donc relativement peu fiable. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'empathie est biaisée par l'apparence. On aura tendance à plus ressentir les émotions d'une personne belle ou de la même origine ethnique que nous. Des études faites en IRM ont montré à de nombreuses reprises que des personnes à qui on présente des vidéos de gens qui souffrent réagissent plus lorsque ces personnes sont de la même couleur de peau qu'eux. D'autres recherches ont généralisé cet effet. Dès qu'une personne ne fait plus partie du groupe par lequel on s'identifie, ce qui peut être un autre pays ou une autre équipe de foot, l'empathie fonctionne mal ou plus du tout. Ce qui la rend assez peu utile pour l'aide internationale, par exemple. Une grosse limite de l'empathie est qu'elle fonctionne comme un projecteur. Elle se focalise sur une personne avec qui on se connecte émotionnellement en négligeant le reste. Cette propriété rend l'empathie complètement myope dans les cas où de nombreuses personnes ont besoin de notre aide. C'est qu'il est difficile de ressentir les émotions de plusieurs personnes en même temps. Puisqu'elle réagit à des visages, il semblera plus évident d'aider un enfant identifiable que d'investir son énergie pour diminuer ce qui sera vu comme une statistique froide, même si ces chiffres sont des vies humaines. Toute chose égale par ailleurs, sauver deux personnes devrait pourtant être deux fois mieux que sauver une seule personne, et plus généralement, on devrait réagir proportionnellement à la quantité d'aide nécessaire. Mais ce n'est pas comme ça que l'empathie fonctionne. Dans un article fascinant, au titre provocateur, Paul Slovic démontre que plus le nombre de victimes augmente, moins nous sommes disposés à les aider, ce qu'il appelle l'engourdissement psychique. Ceci explique notamment les choix faits par les collectes de dons pour maximiser l'engagement du public en se focalisant sur un visage. L'empathie est donc un réflexe compulsif qui dépend de nos perspectives, de nos biais, qui ne réagit pas au nombre et qui semble globalement un assez mauvais compagnon pour prendre des décisions morales dans un monde complexe.
Beaucoup de retours sur 88.4, c'est avec Waka et Polo, dont c'était Léo Grasset de la chaîne YouTube Dirty Biology. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a sur cette chaîne YouTube, mais je trouve quand même que souvent ce qu'il fait, c'est plutôt chouette, si vous avez envie d'aller voir. En tout cas, juste, je trouve ça intéressant. Pour en revenir à ce que je disais, c'est que, en fait, plus les chiffres sont importants, plus en fait, il y a un décalage entre la perception de, entre parenthèses, de la gravité. Et du coup, Le traitement médiatique qui a été fait des morts par rapport au Covid-18 me rappelle ce que justement disait Léo dans sa vidéo. C'est qu'en fait, il disait plus les chiffres sont importants et plus il y a une forme de distance émotionnelle. Et je pense que le traitement médiatique fait des morts tous les jours. On nous explique, oui, il y a tant de morts, tant de personnes en réanimation. En fait, ça coupe un peu de la gravité, ça nous coupe émotionnellement de la gravité de la situation, parce qu'on se dit, en fait, ça a l'air loin, alors que non, ça pourrait être nous, nos proches. Combien d'entre nous avons perdu des gens, qui connaissent des gens qui ont perdu des gens, ou bien, je veux dire, c'est nous, pas eux, c'est nous. C'est un tout. Et ouais, c'est un truc qui m'a un peu scandalisé durant ce traitement du Covid, de cette épidémie, durant le traitement même, qu'à l'état des gens, c'est totalement scandaleux. Je vais juste rajouter que, en fait, il n'y a pas que les morts, même si les morts sont, ces chiffres sont impressionnants, il y a plus de 20 000 personnes, je crois qu'on a 24 000, c'est trop déjà, c'est déjà trop. Mais au-delà de ces morts-là, ce que ça nous dit de notre société est très importante, en fait. Ça nous dit que ceux qui sont en bas ne cèdent que entre ceux qui sont en bas. Je veux dire, c'est pas ceux qui sont d'en haut qui vont aider ceux qui sont en bas. Et ça nous fait comprendre, parce que souvent on oublie, parce que, comme dit Luzen de Yakuza, on vit puis on oublie car tout est gore. Oui, on vit dans une société qui est gore, mais vraiment gore. Du coup, je le vis dans mon corps. C'est pas fait exprès la rime. Je le vis dans mon corps, ce truc de affreux. Et comme plein de gens, en fait. Après, je dis pas que j'ai la solution ou quoi. Mais je pense qu'une déjà, une solution déjà, ça serait de se regarder. Ça serait de regarder nos biais cognitifs. De regarder comment, en fait, on fonctionne. Comment, en fait, on fonctionne vis-à-vis des autres. C'est de regarder qu'il y a des structures, mais aussi des choses qui sortent de ces structures. Des choses qui rentrent dans ces structures, qui en sortent. Bon, ça a l'air compliqué comme ça. tout ce que je veux dire, c'est que les choses s'expliquent. Et il suffit juste des fois de voir. Et je pense que beaucoup de personnes refusent de voir. Parce que quand on voit, on ne peut plus faire semblant de ne plus voir. Il ne suffit pas juste de dire « c'est l'autre ». Non, c'est toi aussi. C'est toi. Qu'est-ce que toi tu fais ? Ce n'est pas pour dire que c'est parce qu'il n'y a pas de responsabilité collective. Non, évidemment qu'il y a une responsabilité collective. Mais aussi une responsabilité individuelle. Tout simplement. Quelle est ta place? Quelle place tu as dans la société? Connais ta place et donc tu connaîtras la place des autres. Il y a toujours un truc qui me marque à chaque fois et que peut-être je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans cette émission. Mais cette chose, c'est de dire une chose simple. Si on nous a appris à nous penser comme étant inférieurs, ils ont appris à se penser comme étant supérieurs. Donc chacun sait la place qu'il a. Au bout d'un moment, les gens ne peuvent pas faire comme s'ils sont aveugles. Oui, il y a des choses qui nous échappent. Mais il y a beaucoup de choses qu'on voit. Je terminerai là-dessus et on passe à la chronique de Polo.
Bonjour, vous êtes sur Radio Galère 88.4 et c'est Polo pour le point de santé communautaire. Du coup, aujourd'hui, il n'y aura pas de compte parce que mon ordinateur m'a lâché et du coup, j'essaye de récupérer mes fichiers. Par contre, du coup, j'ai fait tout le point de santé, de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va aussi parler du coup de la situation des TDS dont on parle depuis plusieurs semaines déjà, qui a encore aujourd'hui un petit peu bougé. Donc on va parler de la question sur les avancées du fonds d'urgence pour les personnes TDS, mais aussi de ce que va signifier le déconfinement dans une ville et comme Marseille par exemple. Du coup, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, sur des questions idéologiques, Marlène Schiappa a refusé toute aide aux personnes TDS en disant que puisque la prostitution était une violence, nous ne pouvions pas débloquer de fonds d'urgence. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les associations de santé communautaire ont fait une lettre. Des députés ont aussi porté des amendements qui ont tous été refusés, comme les amendements pour les personnes LGBT. Ce qui s'est passé du coup cette semaine, c'est qu'il y a une lettre ouverte qui a été envoyée qui rassemble toutes les associations de santé communautaire qui œuvrent dans la lutte contre le VIH et aussi Médecins du Monde. Et du coup, cette lettre ouverte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui ont rappelé, pas dans la lettre mais dans leur poste, les conséquences de la loi du 13 avril 2016 et du coup de toutes les suites que ça a engendré pendant le confinement. Du coup, il y a AIDS, ARCAT, SIDAction, le planning familial et Médecins du Monde qui l'ont signé. Donc je vais vous en lire un extrait, c'est l'extrait de fin, et qui explique en gros quelles sont les demandes qui en ressortent. Les dispositifs de compensation d'urgence ou de droit commun, entre parenthèses, maintien des prestations sociales, prolongation des titres de séjour, versement d'une aide exceptionnelle de la CAF, prolongation de la trêve hivernale et ouverture de places d'hébergement, ou les réponses plus spécifiquement destinées aux personnes exerçant le travail du sexe, entre parenthèses, c'est le protocole départemental de mise à l'abri des victimes et de remise en route des commissions départementales pour l'examen de parcours de sortie de prostitution et information à destination des travailleuses du sexe, ne permettant actuellement pas de limiter les dommages car la plupart ne peuvent y accéder, ne répondent pas aux critères exigés. Du coup, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui a été mis en place pour l'instant, la plupart des gens, en fait, qui sont TDS ne peuvent pas y avoir accès. Et du coup, les associations, en gros, qui sont assez reconnues en France, font une pression supplémentaire sur le gouvernement pour le déblocage d'un fonds d'urgence pour les personnes TDS. Et du coup, ils enchaînent sur « Cela les condamne pour les plus précaires à un basculement dans la grande pauvreté. Un grand nombre d'entre elles et eux ne parviennent ainsi à aujourd'hui plus à subvenir à leurs besoins primaires. Se nourrir, se loger, se laver, se soigner. » Pour leur venir en aide, des associations communautaires et ou de santé communautaire se sont adaptées pour poursuivre des actions de terrain, des maraudes, etc. et maintenir un accueil physique, qu'elles couplent maintenant à des distributions alimentaires et de produits de première nécessité. Ces actions sont souvent réalisées sur leurs fonds propres ou grâce à la générosité citoyenne, notamment par le biais de cagnottes solidaires. Donc je fais un petit aparté, je le redis comme je l'ai dit dans mes anciennes chroniques. Il y a des cagnottes solidaires pour les TDS et pour les personnes trans qui ont été mises en place sur toute la France. Il vous suffit d'aller sur le site de la Fédération Parapluie Rouge et de chercher l'article qui les recense toutes et qui s'intitule « Les travailleurs et travailleuses du sexe s'organisent pour lutter contre le confinement ». Je vous fais un petit rappel. Il y a le FAST, il y a la cagnotte du Stras, il y a la cagnotte de Paré pour, il y a la cagnotte de Tapote pute, il y a la cagnotte de Cabiria, Griselidis et du bus des femmes. Et si vous avez besoin vraiment d'un petit récapitulatif, allez sur le site de la Fédération Parapluie Rouge. J'en reviens au texte. Cette grande précarité risque de contraindre certaines et certains travailleurs du sexe à reprendre leur activité dans une clandestinité renforcée. Ce risque nous inquiète tout particulièrement, nous, associations de santé, puisqu'il conduira à une plus grande exposition des travailleurs et travailleuses au coronavirus, mais également au VIH et autres IST. Parce que comme vous le savez, en fait, il est de plus en plus compliqué en ce moment de pouvoir se faire dépister. Il y a beaucoup de Cégides qui ont fermé, AIDS des réformés, le Spot de Longchamp vient à peine de réouvrir, et du coup, en fait, il y a un grand désert médical en dehors du coronavirus qui s'est mis en place. Ce qui fait que on se retrouve à mettre toujours les plus précaires en danger. Si tu n'as pas d'argent, tu vas devoir sortir. Si tu es TDS, tu vas devoir sortir, tu vas devoir travailler, comme beaucoup de personnes, et du coup, être exposé aux IST comme d'habitude et avoir du coup une couverture médicale qui est bien moindre parce que tout est mobilisé par le coronavirus. D'où aussi le besoin d'avoir un fonds d'urgence pour ne pas pousser les gens les plus précaires à devoir ressortir pour se nourrir en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, on en est là. Les associations de santé communautaire fonctionnent avec des fonds et des cagnottes qui sont majoritairement alimentées par des personnes issues de la communauté. Parce qu'on va pas se voiler la face, en fait. Si on est abolitionniste, on ne donne pas aux cagnottes pour les TDS. Et donc, en fait, on se doute bien de qui donne. C'est des personnes queer, c'est des personnes trans, c'est des personnes TDS. Majoritairement, du coup, des personnes de la même communauté qui donnent. Et les assos, en fait, fonctionnent là-dessus. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens, voilà, qui ont du mal à manger, qui ont du mal à payer leur loyer et qui sont obligés en fait de sortir travailler comme les plus précaires en fait, comme les gens qui font la manche, comme beaucoup de personnes qui sont obligées de sortir. Mais bref, du coup en fait on en revient à ce qui nous anime depuis le début du confinement. Tout le monde ne peut pas assouvir ses besoins de première nécessité et les premiers et premières touchés par ce virus sont ceux et celles qui n'ont pas accès aux aides de l'État. Du coup, les TDS, les personnes sans papier, les personnes qui exercent un travail qui n'est pas reconnu, toutes les personnes payées à la prestation. Donc par exemple en fait c'est vraiment tout bête mais plein de serveurs. Plein de serveuses qui n'ont probablement plus aucun salaire. Et on pense évidemment aux caissiers, aux caissières, aux aides à domicile, aux femmes et hommes de ménage, à plein de gens en fait qui continuent à devoir travailler. Du coup, c'est toutes ces personnes-là qui sont en première ligne. Et par ailleurs, j'en reviens au TDS, la stigmatisation de l'activité du travail du sexe qui s'était vachement accrue avec la loi du 13 avril 2016. En fait, par rapport à cette loi, tout le monde se retrouve démuni face à plein de demandes légitimes en fait qui nous tombent dessus. C'est-à-dire que tout le monde était devenu ultra précaire. Et en fait, avec le coronavirus, c'est de plus en plus difficile. Et les associations manquent de soutien et d'aide. Du coup, par exemple, comment on peut aider à payer les loyers quand l'État refuse de débloquer tout fonds d'urgence, par exemple? Parce que même les cagnottes en fait ne peuvent pas suffire pour nourrir tout le monde et payer les loyers de tout le monde. Donc en ce moment on se retrouve face à une situation qui est inédite parce que la casse du service public elle a engendré une incapacité de toutes les institutions à prendre en charge les personnes les plus précaires. Et depuis cette mise en place en fait de tout ce qui s'est un petit peu effondré, l'hôpital public, les aides, à peu près tout en fait. On a tous vu les conséquences que ça a engendré dans la vie de tous les jours et dont pour certains on se rendait pas forcément compte en fait. Du coup, certaines associations comme la mienne, celle où je travaille, et comme je vous l'ai dit, on fonctionne sur des cagnottes. On finit par en comprendre. Enfin, moi, je sais que c'est ça que j'ai fini par comprendre. Je me suis rendu compte que ce qui se passait en ce moment, c'est que il y avait besoin en fait de liens communautaires parce que qui s'occupe des personnes marginalisées, c'est les personnes qui sont comme elles. Donc, par exemple, pour les personnes TDS, ça a fait comprendre beaucoup de personnes et notamment des associations que sans solidarité, là, ça allait pas être l'État. Et c'était des cagnottes organisées par et pour les personnes TDS en fait. Je pense aussi aux personnes LGBT. Je pense aussi à beaucoup de personnes racisées. À beaucoup même de quartiers qui se sont organisés comme ça. En fait, cette crise, elle nous fait aussi prendre conscience que si on s'aide pas entre nous, l'État, il nous laissera crever, quoi. Du coup, ça a fait ressortir beaucoup de questions lambda aujourd'hui et dont on se posait même plus la question. Et j'en reviens au désert médical. Par exemple, se faire avorter, oui, mais où et quand, par exemple? Et qui définit les opérations de première nécessité? La dernière fois, j'ai lu un article d'une personne qui expliquait que elle se retrouvait bloquée du coup pendant le confinement enceinte. Elle tape sur Google parce que pratiquement tout est fermé autour d'elle et qu'elle se doute bien que les hôpitaux sont débordés. Elle tape sur Google avortement. Elle tombe sur le premier site et en fait c'était des personnes qui étaient anti-avortement et qui auraient très bien pu la convaincre de ne pas. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent démunies. Nous on a des appels de gens qui ne savent pas si le planning est ouvert, si le planning est fermé, comment faire pour se faire poser un implant, comment faire pour aller se faire avorter, comment faire pour aller prendre la PrEP, et si on couche avec quelqu'un et que la capote craque. En fait, il y a plein de choses qui, du coup, nous semblaient évidentes et lambda, mais qui, là, en fait, montrent aussi que c'est de plus en plus difficile. Marseille, on en revient aussi à Marseille, c'est une ville qui est marquée par des taux de pauvreté très élevés qui sont comparés au reste du pays et notamment de Paris. Et en fait, on a vu aussi qu'il n'y avait rien qui avait été mis en place pour permettre aux plus précaires de se nourrir, tout simplement. Après, la police s'étonne de voir des gens dehors et met des amendes à tout le monde. Mais c'est le comble du ridicule. Les fontaines d'eau potable étaient fermées. Les gens font la queue pendant des heures dehors pour avoir à manger. Enfin, on est dans une ville où il y a 25% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Évidemment qu'il y avait plein de gens qui fonctionnaient avec des petits boulots, avec des gâches, avec des boulots payés à la prestation, qui faisaient la plonge, qui aidaient sur les marchés, etc. La dernière fois, je tombe sur un copain, il était super content parce qu'il avait réussi à aider des camions à être déchargés et du coup, il s'était fait 100 balles, ce qui lui était plus arrivé depuis 3 semaines. En fait, c'est super grave ce qui se passe. Et c'est une situation qui a vraiment aucune fin. Pour en revenir, au travail, en fait, et au confinement, comment on fait quand il n'y a plus à manger à la maison? Comment on fait quand les allocations sont bloquées, quand le travail n'est pas déclaré et du coup pas indemnisé, que du coup, pour se faire débloquer les allocations, ce n'est pratiquement plus possible et c'est une galère sans nom? Et en fait, c'est une situation, on en revient à ça, qu'il n'y a pas de fin. On voit que les violences policières se concentrent sur les mêmes quartiers et sur les mêmes les personnes racisées et les personnes les plus pauvres. Il y a eu une vidéo super choquante qui montrait tout le racisme de la police qui a été diffusée où on entendait deux policiers rire d'une personne qui avait sauté à l'eau pour leur échapper en disant « les bicots, ça c'est pas nager ». Et du coup, comment est-ce qu'on peut penser qu'on vit tous et toutes le même confinement, que le rapport à l'État est le même, et on compte déjà 5 morts lors d'interpellations au commissariat depuis le début, et le nombre de blessés et d'agressions s'intensifie chaque jour, et pourtant il y a une espèce de chape de plomb qui s'étend sur le pays. On n'entend jamais parler de la différence de traitement que on subit tous et toutes. Et rien que là aujourd'hui, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais en gros, c'était le 1er mai, il y avait des gens qui voulaient sortir et qui voulaient manifester. Je suis allée aussi avec eux, mais il se trouve que en bas dans la rue Consola, on était majoritairement que des blancs. Et bah les policiers ne sont pas venus, ils sont pas venus là, ils sont venus pendant la manif. Et en vrai, ils sont tous les jours à Noailles. Et on le voit, c'est pas la même chose quand on est confiné à Longchamp que quand on est confiné à Noailles ou dans les quartiers nord, c'est pas vrai. Et du coup, il y a des privilèges en fait dans ce confinement. Qui peut se permettre d'être calme, qui peut se permettre de prendre soin de soi et de sa santé mentale et physique. Et en vrai, ne pas avoir à réfléchir, à manger, à fuir son compagnon violent, à maintenir un suivi médical pour sa santé lorsque par exemple on a une personne trans, parce que je vous rappelle que toutes les transitions sont à l'arrêt et de façon très brutale. Et quand je dis toutes les transitions, c'est que c'est extrêmement compliqué de pouvoir poursuivre ces traitements hormonaux, ce qui est mauvais pour notre santé en vrai. Donc là, on se détériore tous. C'est une catastrophe aussi médicale. Donc voilà, et je pense qu'on doit se rendre compte de tous ces privilèges-là. Et moi, j'en ai plein. J'ai vachement de privilèges de pas avoir à me questionner le matin sur mes rentrées d'argent. J'ai un salaire qui va tomber. Mon loyer, du coup, il peut être payé. Et d'accord, il reste tout le reste. Mais je sais que je fais partie des privilégiés du confinement. Et si on n'arrive pas à une espèce de prise de conscience collective, cette sortie du confinement, ça va être un désastre. Parce que est-ce que les personnes précaires pourront rester dans les endroits qui leur ont été alloués pour cette période, par exemple? Je pense à toutes les personnes qui sont sur les dispositifs 115 et qui sont du coup sur des dispositifs longs. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Quelqu'un qui a perdu complètement son logement et qui arrive à retrouver une place dans un foyer parce que c'est aussi le Covid. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on se déconfine? Oui, mais comment? Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Comment est-ce qu'on va aller travailler? Et je dis pas ça pour dire qu'il faut forcément penser au travail, mais il faut penser à manger. Et moi, j'ai le luxe de pas pouvoir penser à mon taf, en fait. J'ai le luxe d'avoir mon salaire. Du coup, évidemment, je peux dire, le travail, c'est pas la vie. C'est pas la question du travail, c'est la question de la bouffe. Du coup, je termine dans une petite minute, et tout ce que j'avais à dire, c'était que on vivait le calme avant la tempête, et que le problème du travail aux blagues, du travail du sexe, des personnes sans papier qui n'ont aucun accès aux aides, ne va pas être réglé avec le déconfinement, en fait. Et que parfois, moi, j'ai l'impression qu'on attend le 11 mai comme si on pourrait revenir à la normale, mais il n'y a jamais eu de situation normale. Et quand on parlait d'accès aux droits, il y avait surtout des moyens de débrouille et qui aujourd'hui ne fonctionnent absolument plus. Et du coup, on était dans une situation où tout le monde tenait des petits bouts de ficelle, et là, tout a été coupé, et on se rend compte que tout ça, c'était juste un bric-à-brac qui tenait à peine. Et là, il n'y a plus rien qui tient. Et du coup, on va faire quoi et comment on va s'organiser pour faire face à tout ce qui va se passer après le 11 mai? Et moi, j'ai aucune réponse à toutes ces questions, mais j'espère qu'on saura trouver des solutions pour toutes ceux et celles qui n'en ont plus depuis bientôt depuis un mois et demi. Voilà, et bon courage à vous, bon courage à tous ceux qui galèrent. Et vous étiez bien sur Radio Galère 88.4 pour le point confinement, sortie de confinement, santé communautaire, LGBT, femmes, queer, TDS, ce que vous voulez. Voilà.
Du coup, super chouette ton analyse comme d'habitude. Merci Polo pour cette vision globale. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment pour faire une petite pause musicale?
Alors du coup, moi, ce que j'écoute en ce moment, c'est un rappeur qui s'appelle Aminé, qui est super cool. Et la chanson que je préfère, c'est Caroline, parce que ça parle d'amour et c'est très, 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 très drôle. Et le clip est super cool. Voilà, kiffez bien.
D'accord, on écoute ça.
Started really blow the pipe.
That's true.
Like a pro.
Fuck you, thought.
Holy shit, I'm really lit. It's looking like it's about time to fuck it up.
Word.
Caroline, listen up. Don't wanna hear about your horoscope or what the future holds. Shut up and let's get gory like a
Tarantino movie.
Don't wanna talk it out, can we fuck it out? Cause we gon' be up all night, fuck a decaf. You say I'm a tall thug, yes, I'm a giraffe. If you want safe sex, baby, use the knee pad. Freaky with the sticky icky, baby, give me kitty kitty. Killer, West Side nigga. Damn. Boy, you like 98 degrees and I'm 300, nigga, keep your feet running. I keep when I eat these beats. Better boy, get scarf. Don't run up in my lane, I don't want you in my lane. You a lame, get swerved.
Cause great scenes might be great, but I love your bloopers. Imperfects for the urgent, baby, I want forever. Caroline, don't you see that? I want you to be mine.
That thing, fine as hell. Thick as fuck, oh my God. That's my baby, Caroline, you divine. Mighty fine. Started really for the pie.
That's true.
Like a pro.
What?
Holy shit, I'm bleeding. It's looking like it's about time to fuck it up. Caroline, listen up. Don't wanna hear about your hope. It's cool for what the future holds. Shut up and
let's get gory. Like a Tarantino movie.
Don't wanna talk it out, can we fuck it out? Cause we gon' be up all night, fuck a decaf. You say I'm a tall thug, yes, I'm a giraffe. If you want safe sex, baby, use the knee pad. Freaky with the sticky icky, baby, give me kitty kitty. Killer, West Side nigga.
Damn.
Boy, you like 98 degrees and I'm 300, nigga, keep your feet running. I keep when I eat these beats. Better boy, get scarf. Don't run up in my lane, I don't want you in my lane. You a lame, get swerved.
Cause great scenes might be great, but I love your bloopers. Imperfects for the urgent, baby, I want forever. Caroline, don't you see that? I want you to be mine.
De retour sur 4.4, c'était la chronique de Polo et c'était cette super chanson.
Ouh.
Moi aussi j'adore Amélie. Donc on va se quitter. Merci à toi Polo.
Et ben merci d'avoir été là pendant toute cette émission et à très vite, à la semaine prochaine, peut-être pour le dernier épisode, on verra bien.
Mais avant de se quitter, on va faire comme promis, plus du moins faire, on va plutôt écouter comme promis la lecture du collectif lyonnais tout simplement, qui n'ont pas de nom encore. Du coup on va dire les 7 personnes qui ont participé à cette lecture de Moni Wittig. Cette lecture qui s'appelle Les Guerrières. Du coup, ce que dit Monique Wittig d'elle-même, de ce livre, « Mon but a été de faire que elle arrive comme un choc pour le lecteur, comme une surprise, puisqu'elle tient tout ce récit. Il doit s'en suivre une sorte de désorientation. Le lecteur entre dans un livre et se trouve confronté avec un elle qui n'est pas familier, pas ordinaire, qui est nouveau et héroïque. En tout cas, c'est ce qui m'a guidée. Et l'espoir que ce elle pourrait situer le lecteur dans un espace au-delà des catégories de sexe pour la durée du livre. C'est peut-être ici que réside l'utopie. Fin de mouture de la parenthèse. Désolée, j'ai pas ouvert la parenthèse au début, mais au moins je la ferme. Du coup, Moni Wittig, quelques remarques sur Les Guerrières, paru dans l'esprit créateur hiver 1994. Merci à vous les filles, les femmes, plutôt, peut-être. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne écoute.
Les Guerrières, Monique Wittig, lecture à 7 voix, avril 2020.
Calypso, Judith, Anne, Iseu, Christa, Roberte, Vlasta, Cléonis, René, Maria, Béatrice, Reine, Idoménée, Guilhermina, Armide, Zénobie, Lessia. Elle rappelle l'histoire de celle qui a longtemps habité là où les chameaux passent. Tête nue sous le soleil, Clémence Mailleul a sans cesse invoqué Amaterasu, la déesse du soleil, en coupant ses cheveux en abondance, en se baissant par 3 fois vers le sol qu'elle frappe de ses mains et en disant « Je te salue, grande Amaterasu, au nom de notre mère, au nom de celles qui vont venir. Que notre règne arrive, que cet ordre soit rompu, que les bons et les méchants soient abattus. Elles disent que Clémence Mailleul a souvent dessiné sur le sol l'eau, qui est le signe de la déesse, le symbole de l'anneau vulvaire. Elles disent qu'aussi bien n'importe laquelle d'entre elles pourrait invoquer une autre déesse du soleil, Tzihuacotl, par exemple, qui est en même temps déesse guerrière. On pourrait par exemple, à l'occasion de la mort de l'une d'elles, se servir du vieux chant de deuil, qui est un chant glorieux. Elles chantent alors tout ensemble. « Fille forte et belliqueuse, ma fille tant aimée, fille vaillante et tendre petite colombe, madame, tu as fait des efforts et travaillé comme une fille vaillante, tu as vaincu, tu as fait comme ta mère, la dame Tzihuacotl, tu as combattu avec vaillance, tu t'es servi du bouclier et de l'épée. Lève-toi, ma fille, va à ce lieu bon qui est la maison de ta mère, le soleil, où toutes sont pleines de joie, de contentement et de bonheur. » Elles sautent sur des chemins qui vont vers des villages en secouant leurs cheveux, les bras chargés de cynocéphales, en frappant le sol de leurs pieds. Quelqu'une s'arrêtant arrache une poignée de ses cheveux longs et les fait s'en aller un à un sur le vent. À la façon des ballons que les petites filles lâchent les jours de fête, s'élevant dans le ciel, légers, inconsistants, filiformes, et se tortillant, ils sont soufflés vers le haut par le vent. Ou bien elles chantent ensemble une chanson qui comprend ces paroles, qui jusqu'alors m'a tété le bout du sein, un singe. Elles jettent alors tous les cynocéphales et se mettent à courir. Elles les poursuivent sous l'abri des bois jusqu'à ce qu'ils aient disparu dans les arbres. Elles disent « Comment déterminer un événement digne de mémoire ? Faut-il qu'Amaterasu elle-même s'avance sur le parvis du temple, le visage brillant, aveuglant tous les yeux de celles qui, prosternées, posent leur front sur le sol et n'osent pas relever la tête ? Faut-il qu'Amaterasu, élevant très haut le miroir circulaire, tonne de tous ses feux ? Faut-il que ses rayons, par le biais du miroir, incendient la terre sous des pas de celles qui sont venues rendre hommage à la déesse du soleil, la plus grande des déesses ? Faut-il que sa colère soit exemplaire ? Elles disent que les références à Amaterasu ou à Tzihuacotl ne sont plus de mise. Elles disent qu'elles n'ont pas besoin des symboles ou des mythes. Elles disent que le temps où elles sont parties de zéro est en train de s'effacer dans leur mémoire. Elles disent qu'elles peuvent à peine s'y référer. Quand elles répètent, il faut que cet ordre soit rompu. Elles disent qu'elles ne savent pas de quel ordre il est question. « Qu'est-ce que le début ? » disent-elles. Elles disent qu'au début, elles sont pressées les unes contre les autres. Elles ressemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés, sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse, brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres à nul point ne peuvent s'accrocher. À la verticale, à l'horizontale, c'est la même glace, ni froide ni chaude, c'est la même brillance qui nulle part ne les retient. Elles avancent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Elles progressent, il n'y a pas de futur et il n'y a pas de passé. Elles se meuvent lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immuable. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont ou elles viennent enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. Si parfois elles tentent de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, la musique de XX, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller, leur donne un départ nouveau. Elles sont prisonnières du miroir. Ido, Blanche, Valentine, Gilberte, Fausta, Monime, G, Bossy, Sophie, Alice, Octavie, Josiane, Gaïa, Déodata, Kaa, Vilaine, Ange, Frédéric, Petch. Elles disent que le féminaire divertit les petites filles. Par exemple, trois sortes de nymphes y sont mentionnées. Les nymphes naines sont triangulaires. Ce sont accolées, deux replis étroits. Elles sont presque invisibles parce que les lèvres les dissimulent. Les nymphes moyennes ont l'aspect d'une feuille de liliacée. Elles sont en forme de demi-lune ou triangulaire. On les voit sur toute leur longueur, raides, souples, bouillonnante. Les grandes nymphes déployées ressemblent à des ailes de papillon. Elles sont hautes, triangulaire ou quadrangulaire, très apparente. Elles disent qu'étant porteuses de vulves, elles connaissent ce qui les caractérise. Elles connaissent le mont, le pénil, le pubis, le clitoris, les nymphes, les corps et les bulbes du vagin. Elles disent qu'elles s'enorgueillissent à juste titre de ce qui a longtemps été considéré comme l'emblème de la fécondité et de la puissance reproductrice de la nature. Elles disent que le clitoris a été comparé à un noyau de cerise, à un bourgeon, à une jeune pousse, à un sésame décortiqué, à une amande, à une baie de myrte, à un dard, au canon d'une serrure. Elles disent que les grandes lèvres ont été comparées aux deux valves d'un coquillage. Elles disent que la face cachée des nymphes a été comparée à la pourpre de Sidon, au corail des tropiques. Elles disent que la cyprine a été comparée à l'eau de mer iodée, salée. Elles disent qu'elles ont trouvé des inscriptions sur des murs de plâtre où des vulves ont été dessinées comme les enfants dessinent les soleils avec de multiples rayons divergents. Elles disent qu'il a été écrit que les vulves sont des pièges, des étaux, des tenailles. Elles disent que le pénil a été comparé à la proue d'un bateau, à son étrave, au peigne d'un coquillage. Elles disent que les vulves ont été comparées aux abricots, aux grenades, aux figues, aux roses, aux œillets, aux pivoines, aux marguerites. Elles disent qu'on peut réciter les comparaisons à la façon de litanie. Anémone Flavian leur raconte l'histoire de la marchande d'épingles qui frappe à la porte de la jeune fille. Quand la jeune fille ouvre la fenêtre et se penche, le chat blanc lui passe devant la figure, ce qui la fait crier. Ses cheveux pendent du côté où elle est penchée. La marchande alors lui présente des épingles dans ses mains ouvertes. Elles ont des têtes vertes, rouges, bleues. Quand la marchande se tord le pied, elle lâche toutes ses épingles entre les pavés disjoints. La jeune fille se plaint tout haut que sa parure va être gâchée. Une petite fille qui passe se met à ramasser les épingles rouges, vertes, bleues. Elle les pose en se relevant dans les mains de la marchande. La marchande d'épingles lève la tête vers le ciel. Elle se met à courir en ouvrant les mains, en riant de toutes ses forces, en jetant partout les épingles vertes, rouges, bleues. La petite fille la suit à cloche-pied, tandis que la jeune fille se met à pousser des cris perçants à sa fenêtre. Ou bien elle joue à un jeu. Il y a toute une rangée de crapauds, les yeux exorbités. Ils sont immobiles. Le premier qui est atteint d'un coup de pied bascule d'un bloc sur le côté, à la façon d'un mannequin bourré de paille et sans un cri. Les autres s'enfuient en sautant. Leurs dos sont visibles par moments au-dessus des luzernes et des trèfles roses. Ils ressemblent à des gros poulets, tête baissée, picorant et regardant le sol. Ils ne progressent pas régulièrement. Quelques-uns, plus rapides, sont loin en avant. L'un d'eux disparaît dans la haie. Il est bientôt suivi des autres, à l'exception d'un seul qui continue à errer dans les champs.
Kamala, Pomaré, Sigismonde, Marceline, Galatée, Zahir, Evelyne, Constance, Annonciade, Victoire, Marguerite, Rose, Julie, Aglaé, Léda. Ou bien les trois chats sont retenus par la queue dans un piège. Ils vont chacun de son côté et miaulant. Le piège lourd avance lentement derrière eux par saccades. Ils crient, ils se ruent, grattant le sol de leurs griffes. Leur poil est hérissé. L'un d'eux se tient immobile et se met à faire le dos rond en grinçant des dents et en hurlant. Les deux autres chats s'efforcent de l'ébranler en tirant sur le piège, mais ils ne parviennent qu'à le faire culbuter dans le carcan d'acier. Tous trois alors se battent, ils se jettent les uns contre les autres, griffant et mordant, ils se blessent les yeux, le museau, ils s'arrachent les poils dans le cou, ils ne peuvent plus s'arrêter de se battre et le piège qui se jette dans leurs jambes ne fait qu'accroître leur fureur. Fabienne Jouy raconte une histoire de loup. Ça commence comme ça, la neige verglacée luit. Elle dit que ça se passe au soleil couchant. Ça continue comme ça, le soleil est rouge, bas dans le ciel, énorme. Les corps étendus ne bougent pas. Des armes posées près d'eux, il provient quelques éclats de lumière, faibles. Les premiers cris des loups sont entendus avant le coucher du soleil. Ils sont lointains et part espacés. Ils font une clameur. Ils sont proches. Des ombres vont et viennent, fuient sous les arbres, quittent l'abri des bois, s'approchent, reculent. Les hurlements des loups ne cessent pas. Les corps immobiles étendus dans la neige sont rejoints par la masse mouvante, indécise des loups. Les oreilles droites, les pattes tremblantes, ils sont au-dessus des visages, ils reniflent les joues, les bouches, ils vont et ils viennent et ils se précipitent. Les visages sont déchiquetés. La figure blanche de la belle Marie Viarme pend, détachée du tronc, sectionnée à la gorge. On aperçoit le ruissellement subi du sang sur ses joues. Les vêtements sont lacérés, les corps à demi dévorés baignent dans une mare immonde, rouge, noire, la neige en éteinte. Les loups halètent, ils vont et viennent, abandonnant un corps, le reprenant, courant à un autre, les pattes tremblantes, les langues pendantes. Dans le crépuscule, les yeux des loups se mettent à briller. Fabienne Jouy a terminé son histoire quand elle dit « On ne sait pas de quel côté souffle le vent ». Les commentaires ne sont pas recommandés après que quelqu'une a raconté une histoire. Malgré cela, Cornélie Surget ne peut pas s'empêcher de dire « Au diable les histoires de loups, si encore il était question de rats, oui, si seulement c'était des rats ». Elle casse les noix pour en retirer l'huile. Elle porte les particules au pressoir où elles sont concassées. Les cerneaux sont disposés sur la meule. La longue vis de bois qui fait tourner la meule est ferrée. Des filets d'huile débordent. On écrase en même temps des graines de sésame, des graines de pavot. Des pétales de fleurs macérées, des œillets, des simples, des mauves sont pressés par la meule. Les fleurs blanches et parfumées du myrte servent également à la préparation d'une huile qui est l'eau des anges. On la recueille dans une vasque de pierre. Dans la pièce surchauffée, des vapeurs oléagineuses passent. Les murs sont gras, suintants. Elles détachent leurs cheveux, elles les trempent dans les bains aromatiques. Leurs mains et leurs bras sont luisants, leurs seins sont nus. Les bords du fleuve sont boueux. L'eau noire semble profonde, avec un bâton, on n'en touche pas le fond. Des iris d'eau bleu pâle, des nénuphars rouges sont accrochés aux racines des arbres qui débordent au-dessus de la berge. Les têtes des nageuses apparaissent là-bas, au milieu du fleuve, elles se confondent avec leurs reflets sur l'eau. Quelques péniches noires remontant le fleuve est toujours sur le point de les atteindre. Les nageuses, touchées, il semble, s'engloutissent. Mais leurs têtes réapparaissent, rondes, ballottées par le remous. Le sifflement long et strident d'une gardienne d'écluse se fait entendre. Il y a une fumée quelque part en amont, le soleil n'est plus visible. L'eau s'obscurcit de plus en plus jusqu'à perdre son apparence liquide. Aubierge, Clarisse, Phèdre, Eudoxie, Olive, Io, Modeste, Plaisance, Igie, Louise, Coralie, Anémone, Tabitha, Thelma, Ingrid, Prascovie, Nathalie, Pompeia, Aliénor. Elle regarde des vieilles images, des photographies, quelqu'une les explique. Par exemple, la série de la fabrique de textiles. C'est un jour de grève. Les ouvrières font un piquet de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. Elles tournent en rond l'une derrière l'autre, en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre d'entre elles porte à bout de bras une pancarte où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge sur le papier blanc. Sous leurs pieds dans le champ, il y a un cercle de terre battue. Ou bien quelqu'une commente la série de photographies des manifestations. Les manifestantes avancent en tenant tout un livre dans une main levée. Les visages sont remarquables par leur beauté. Leur foule compacte déferle sur la place, rapide quoique sans violence, portée par le mouvement interne qui lui impose sa masse. D'énormes mouvements s'effectuent en divers points de la place quand les manifestantes tentent de s'arrêter autour des groupes d'une ou de plusieurs parleuses. Elles sont immédiatement poussées, entraînées par des milliers de jeunes femmes qui les suivent et qui s'arrêtent à leur tour.
Malgré les perturbations que les mouvements particuliers font subir à l'ordre général, il n'y a pas de piétinement, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de course subite et forcée, les parleuses peuvent se tenir immobiles. À un moment donné, la foule amorce un mouvement général d'arrêt. Il lui faut quelque temps pour s'immobiliser tout à fait. Là-bas, des allocutions ont commencé, les voix dans les haut-parleurs sollicitent l'attention des manifestantes. Les grues ont mis au jour les radicelles d'un arbre. Avec des pinces, elles ont décollé de la terre les extrémités filiformes, cassantes, frisées. Des feuilles racornies, atrophiées, pourries y sont accrochées. En délimitant systématiquement les zones dans lesquelles l'arbre s'est nourri, elles sont arrivées au centre de l'arbre, au tronc. Elles ont dégagé l'arbre enterré tout entier, branches, feuilles, troncs, racines. Le tronc rongé, blanchi et comme transparent, les branches et les racines se ressemblent. Des branches et des racines principales partent des rameaux qui font un réseau compliqué et chevelu, à peine encombré par endroits de quelques feuilles, de quelques fruits. La corvée d'eau est signalée par une crécelle de bois très dur, buis ou santal, qui, agitée, produit un bruit discordant. On recueille l'eau dans des cuves de capacité énorme, d'autres sont disposées dans des souterrains que la marée envahit. D'une façon générale, il y a toujours de l'eau en abondance. On l'utilise pour détremper les sols avant d'entreprendre les travaux. C'est ainsi qu'on peut délimiter les tracés des allées supplémentaires, creuser des tranchées, établir de nouvelles terrasses, aménager des ronds-points.